François Hellebronn, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po. On vous retrouve régulièrement sur l'antenne de Radio Shalom. Et cette semaine, on va parler avec vous, bien évidemment, du Covid-19. Je dis bien évidemment parce que le président de la République s'est exprimé hier soir. On l'a vu que le président prenait beaucoup, beaucoup de précautions par rapport à cette seconde vague de la pandémie de Covid-19 qui a touché la France. Un confinement qui devrait petit à petit s'arrêter pour se retransformer en couvre-feu. Toujours est-il, François Hellebronn, que cette seconde vague du Covid-19 en France a été, je dirais, plus importante, plus dévastatrice que la première.
Oui, Pierre, ce qui est à la fois surprenant et pas surprenant, la première vague, vous vous en rappelez, qui a eu lieu principalement en mars, avril et puis un peu en mai, a fait, hélas, en France, plus de 30 000 morts. Et là, nous voyons qu'aujourd'hui, nous arrivons au chiffre tragique de morts cumulées de 50 000 morts. C'est-à-dire que pour les simples mois d'octobre et novembre, on a eu pratiquement 20 000 morts. Donc la deuxième vague est tout aussi mortelle que la première, bien que on le voit aussi dans les statistiques des macabres des hôpitaux. Les hôpitaux soignent mieux, ont des protocoles sanitaires, ont des médicaments qu'ils donnent qui permettent de baisser la mortalité, mais le problème c'est que le virus est toujours aussi contagieux et on le voit aussi toujours aussi mortel malgré les grandes améliorations. Donc c'est normal que le président de la République ait eu ce ton grave et inquiet par rapport aux dégâts sanitaires et surtout à la mortalité additionnelle qu'elle engendre. Et donc, il y a des mesures de protection à prendre malgré les contraintes économiques que ça pose et les contraintes sociales que ça pose à beaucoup d'entre nous.
D'autant que, on le sait, le déconfinement a conduit à la seconde vague. Donc, toute la question pour les autorités, qu'elles soient sanitaires ou politiques, c'est un deuxième déconfinement peut-il conduire à une troisième vague ?
Tout à fait, parce qu'en fait, tout le problème, en fait, c'est de trouver le bon équilibre entre la crise sanitaire et la crise économique. Et comme vous l'avez rappelé, pendant la première vague, il y a eu au pic qui était en avril-mai, il y a eu plus de 30 000 hospitalisations. Aujourd'hui, au 16 novembre, on est à presque 34 000 hospitalisations. Et c'est le niveau d'hospitalisation qui est clé, parce que les personnes qui sont hospitalisées sont effectivement des personnes en état grave, qui ont des problèmes, notamment des troubles pulmonaires importants, avec des infections pulmonaires très très lourdes. Et à votre micro, notamment, un certain nombre de médecins se sont exprimés là-dessus. Et moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais moi, je regarde les chiffres en termes statistiques, en termes économiques, ça représente. Et donc, effectivement, la deuxième vague est tout aussi contagieuse et conduit à d'énormes hospitalisations parce que, aussi, on le voit, les soins qui sont donnés en amont de l'arrivée à l'hôpital ne sont pas assez importants. Beaucoup de médecins ne sont pas assez informés des soins préventifs à donner dès que des patients à eux sont touchés par ce virus qui est tout aussi contagieux et, on le voit, tout aussi dangereux que dans la vague précédente d'avril-mai.
D'autant que, d'après les remontées, en tout cas des médecins ou des hôpitaux, cette seconde vague, en fait, ne touche pas, comme la première vague, que les personnes âgées ou les personnes atteintes de comorbidité ou avec des problèmes déjà inhérents avant d'être touchés par le Covid-19. Mais maintenant, ce sont des gens entre 20 et 35 ans qui sont touchés, qui sont en relativement bonne santé et qui se trouvent en service de réanimation et intubés.
Tout à fait. Et c'est là où on voit que la virulence de ce virus est tout aussi forte, voire plus forte que dans la première vague, parce que comme on le signe à juste titre, effectivement, la première vague a beaucoup tué dans les hôpitaux, beaucoup tué dans les EHPAD des personnes âgées de plus de 75, 80 ans. Mais effectivement, aujourd'hui, elle tue des gens plus jeunes. Et aussi, les gens plus jeunes sont parfois, moi je l'ai vu autour de moi, vous l'avez vu autour de vous aussi, ont une notion de risque moins importante en se disant, si on l'attrape le virus, ce sera peut-être qu'une grosse grippe, et on sera peut-être pas bien pendant une semaine ou deux semaines, et puis après on aura les anticorps. Et c'est là où ils commettent une erreur grave, puisque ce virus, parfois, chez les personnes jeunes, peut se transformer en infection pulmonaire. Et si cette infection pulmonaire n'est pas traitée avec des corticoïdes, notamment la cortisone principalement, tôt, ce qui arrive souvent chez les jeunes, ils peuvent développer des infections pulmonaires gravissimes qui leur détruisent les poumons Et s'ils ne sont pas hospitalisés rapidement, ils se trouvent dans des situations graves. Mmh. Et l'autre chose qu'on voit aussi dans les études récentes, et puis moi j'avais écrit une tribune avec des gens qui avaient été touchés comme moi au printemps, ce qu'on appelle des Covid longs, c'est-à-dire qu'avec un manque de soins, avec un manque de certains médicaments, ce qui était le cas en mars-avril, on ne donnait pas de médicaments, rappelez-vous, c'était Doliprane, jus de citron, et le Doliprane masque la douleur et le jus de citron ne sert à rien. Eh bien, ces gens-là ont développé des Covid longs, c'est-à-dire un certain nombre de séquelles inflammatoires qui ont touché tous leurs organismes de leur corps. Heureusement, ça touche que 10 à 15%, mais 10 à 15% de millions de gens touchés, on pense qu'il y en a plus de 100 000 aujourd'hui qui sont touchés. Eh bien, ils ont eu des problèmes vasculaires, des problèmes de circulation, des problèmes cardiaques et des problèmes pulmonaires. Et donc, il faut les traiter à la fois en préventif, mais aussi en curatif, une fois qu'ils sortent du système hospitalier, parce que si vous avez survécu au premier mois, c'est pas pour ça que vous êtes complètement guéri avec ce virus, et vous pouvez présenter des séquelles inflammatoires durables, et encore pire, parce que ça je l'ai vu aussi autour de moi, vous pouvez être recontaminé.
C'était la question que je voulais vous poser. Pour tous les médecins qu'on a interrogés sur Radio Shalom, nous disent que les cas de récidive pour cette seconde vague de ceux qui ont été touchés en mars-avril et qui seraient de nouveau touchés en ce moment sont quand même rarissimes et ça fait partie, je dirais, de l'histoire médicale ou en tout cas du folklore médical, mais en tout cas ils sont très peu nombreux.
Alors d'abord, les médecins que vous interviewez sont souvent des médecins hospitaliers qui ne voient pas forcément ces cas-là, parce qu'ils n'arrivent pas forcément dans les hôpitaux. Par contre, autour de moi, j'ai des amis médecins, généralistes, pneumologues, qui eux en ont vu beaucoup, et notamment un ami pneumologue et pneumologue en Alsace. Il en a vu beaucoup. Pourquoi beaucoup en Alsace? Puisque ces malades ont été touchés en février, en mars, et souvent, on le voit d'ailleurs dans une statistique de l'étude de l'Université de Tel Aviv d'ailleurs, un certain nombre de gens qui ont été touchés en février, mars, avril, n'ont pas développé d'anticorps. On estime, notamment c'est une étude qui a été faite à Bnei Brak, sur 1000 juifs orthodoxes qui avaient été contaminés et testés positifs en mai-juin, ben en août-septembre, ils n'avaient pas d'anticorps. Donc si 20% des gens touchés n'ont pas d'anticorps, ben, si vous n'avez pas d'anticorps, c'est un peu comme si vous n'étiez pas vacciné, ben, vous pouvez être recontaminé. Et donc de plus en plus de cas, alors c'est anecdotique sur le plan statistique, hein, ce n'est pas des milliers de personnes, mais il y a quand même des centaines de cas de gens réinfectés par le virus, et donc c'est pas qu'ils sont infectés par une autre souche, c'est qu'un réinfecté par le virus, et donc il faut être très prudent. Donc le seul moyen de savoir, et je l'ai vu autour de moi, c'est qu'il faut faire une sérologie, c'est-à-dire la mesure des anticorps par une prise de sang, c'est tout bête, c'est tout simple, vous pouvez y aller même sans ordonnance, bon c'est pas remboursé si vous y allez sans ordonnance, mais avec une ordonnance vous serez remboursé. Vous mesurez le taux d'anticorps, et si vous avez des anticorps, ben, vous pouvez effectivement ne pas être contaminé. Par contre, si vous n'avez pas d'anticorps, la recontamination est possible, et possible avec des cas qui sont tout aussi graves. Moi, j'ai vu un ami proche qui a été retouché une seconde fois et qui a développé la seconde fois une infection pulmonaire encore plus violente que la première fois, parce que son organisme ne savait pas développer les anticorps et ne savait pas se défendre. Donc il faut être prudent, même les gens qui ont eu, moi j'ai des amis aussi qui m'ont dit bah, « je l'ai eu en mars-avril, je risque de ne pas l'avoir », et puis en fait, ils ne sont pas protégés s'ils n'ont pas d'anticorps. Donc il faut être très prudent, parce que c'est un virus qui reste virulent, et qui, comme vous l'avez indiqué, reste mortel, et on le voit bien, on est aujourd'hui à plus de 50 000 morts, c'est le chiffre qui a été annoncé par le président de la République hier soir, 50 237 victimes, plus de 34 000 personnes dans les hôpitaux et plus de presque 16 000 dans les EHPAD. Et donc, évidemment, nos aînés, nos âgés qui sont en EHPAD et qui souffrent de la solitude et du manque de contact avec leur famille. Et quand ils voient leur famille, ben, ils sont touchés parce que c'est souvent transgénérationnel. C'est souvent les jeunes de 20 à 30 ans qui sont asymptomatiques, qui vont le passer à leurs parents, qui eux-mêmes vont le repasser à leurs parents. Et donc, il faut casser ces chaînes de contamination. Et c'est pour ça que un certain nombre des mesures annoncées par le président de la République hier soir me semblent tout à fait légitimes. Il faut être encore prudent tant qu'on n'a pas le vaccin, tant qu'on n'a pas de moyens plus efficaces pour se protéger que les masques et que les tests qu'on arrive à faire. Et c'est déjà mieux qu'au printemps, mais ce n'est pas encore la formule magique.
Alors justement, le vaccin, le président de la République en a parlé. Il a dit d'ailleurs qu'il s'opposait à une vaccination obligatoire. Ce vaccin, comment vous l'appréhendez? Ou pas d'ailleurs.
Bah, moi, là, maintenant, j'ai les anticorps. Donc, à titre personnel, j'ai les anticorps. Ce que je ferai, c'est que je mesurerai régulièrement, tous les mois, tous les deux mois, par une prise de sang toute simple, mon niveau d'anticorps. Et si j'ai encore les anticorps, je ne me ferai pas vacciner. Par contre, si vous n'avez jamais eu le virus ou si vous n'avez pas d'anticorps, il faut se faire vacciner. Et je dirais qu'il y a une croyance française. Il y a 46% des Français, c'était sorti dans une étude de Conspiracy Watch, l'institut qui étudie le complotisme, 46% des Français sont contre les vaccins. Bah, c'est absurde, parce que les vaccins vous protègent. Ils nous protègent quand vous êtes enfant, contre la rougeole, la rubéole, les maladies enfantines. Ça vous protège contre le détecoque polio aussi, qui sont des maladies graves. Ça peut vous protéger contre les hépatites. Bah, il faudra se faire vacciner aussi pour se protéger contre le Covid-19. Et tant qu'on n'aura pas plus de 50 à 60% de la population qui sera vaccinée et donc qui sera protégée, on ne pourra pas reprendre une activité économique et sociale normale. Donc l'objectif est quand même de relancer cette machine économique qui est grippée par cette crise sanitaire, qui engendre une crise sociale et qui va engendrer une crise politique. Donc il faut sortir de cette crise sanitaire. Le seul moyen de cette crise sanitaire, on l'a vu, on a des moyens archaïques qui sont le confinement et le port du masque. Mais c'est ce qu'on faisait au moment de la grippe espagnole il y a 100 ans. Mais ça ne suffit pas. Si on a la chance d'avoir des vaccins qui marchent comme ceux qu'apparemment qui sont en train d'être conçus et distribués, eh bien, il faut se faire vacciner, il faut faire vacciner le plus grand nombre, il faut se protéger, parce que ce sera notre seule sortie de crise possible.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.